Le Canada a signé la nouvelle entente, le nouveau traité de libre-échange qui va donc remplacer l'ALENA, entente avec les États-Unis, le Mexique. Mais entre-temps, on sait que le dossier des tarifs sur l'acier et l'aluminium, c'est toujours pas réglé. Et de l'autre côté, on regarde les discussions, négociations entre la Chine et les États-Unis en se disant quelle sorte d'impact ça aura pour nous. J'en parle avec Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada, notamment aux États-Unis et au Mexique, et négociateur pour le gouvernement du Québec dans le dossier du bois d'œuvre, de l'aluminium et de l'acier. Monsieur Chrétien, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Est-ce que c'est une bonne idée de signer une entente comme celle de vendredi sans avoir réglé la question des tarifs sur l'aluminium et l'acier?
Écoutez, vous avez entendu M. Trudeau exprimer son désaccord. Il n'était pas content de signer cette entente avant d'avoir réglé le problème des tarifs. Maintenant, je pense qu'il n'avait guère le choix. Refuser de signer aurait créé une sorte de cataclysme nucléaire commercial et aurait bien sûr créé beaucoup d'incertitudes dans l'environnement général de l'Amérique du Nord. Donc, il n'avait pas le choix, il n'était pas content. Quand il a exprimé son désaccord, M. Trump a fait la moue. Donc, c'est pour moi un indice que les tarifs, malheureusement, vont continuer pour encore un bon moment.
Alors, vous ne voyez pas à l'horizon, là, une abolition de ces tarifs?
Ben, oui, je vois l'abolition des tarifs à l'horizon, mais pas à l'horizon immédiat. Je pense qu'il va falloir attendre 2019. Avant, peut-être même la fin de 2019, avant de voir l'élimination de ces tarifs. M. Trump aime beaucoup les tarifs. C'est un outil qu'il contrôle lui-même, sans l'approbation du Congrès, et je pense qu'il va continuer d'exercer ce pouvoir. Maintenant, nous nous battons beaucoup, nous nous sommes battus beaucoup pour essayer de le convaincre d'éliminer ces tarifs. Il va falloir continuer de le faire. Quand je dis que nous, je parle bien sûr du gouvernement du Québec, l'industrie, les syndicats, même les municipalités, exercer aussi beaucoup de pression sur le fédéral pour faire comprendre l'importance de ces deux secteurs-là, de l'aluminium et de la sidérurgie pour le Québec. C'est quand même 83 000 emplois directs ou indirects pour ces deux secteurs, donc majeurs.
Est-ce qu'on est en mesure de mesurer l'impact de ces tarifs?
Oui, en fait, jusqu'à maintenant, cette taxe qui est de 25% pour l'acier, 10% de l'aluminium a un effet, notamment sur les plus petits transformateurs au Québec. Jusqu'à maintenant, le prix additionnel a pu être transféré aux consommateurs américains, mais déjà, on sent une grogne monter aux États-Unis. Je pense que l'un de nos alliés pour l'élimination de ces tarifs est justement cette grogne américaine, ce mécontentement américain qui va grandissant. Aussi, grâce aux représailles canadiennes qui s'élèvent à 16,6 milliards de dollars, nos tarifs imposés sur les produits américains commencent à agacer profondément les consommateurs américains.
Mais c'est un peu ça qui est paradoxal, parce que je comprends l'amour de M. Trump pour les tarifs, mais en même temps, ce sont ses électeurs, ce sont les consommateurs qui absorbent le coût.
Effectivement. Et c'est pour ça que il faut continuer, quand je dis nous, le Canada et le Québec, continuer à travailler nos alliés naturels aux États-Unis. Bien sûr, par exemple, l'Association américaine de l'aluminium est un bon allié pour nous dans ce dossier. Je travaille étroitement avec eux. Nos alliés naturels, la Chambre de commerce également, les gouverneurs, sénateurs, représentants qui dépendent beaucoup du marché canadien pour leurs produits. Il faut continuer cette campagne de sensibilisation qui existe depuis maintenant plus d'un an et demi. Et d'ailleurs, je dois dire que le réseau des délégations du Québec aux États-Unis a fait un excellent travail à cet égard.
Monsieur Trump, on comprend, c'est quelqu'un d'assez vaniteux, a dit en parlant du nouvel accord que c'était essentiel, que l'ALENA était un mauvais deal pour les Américains, que les États-Unis s'étaient fait avoir pendant des années, qu'ils étaient perdants. Et là, on regarde ça, on dit, mais est-ce que le Canada a dû faire d'énormes concessions pour signer cette nouvelle entente? On connaît l'enjeu là, du secteur de la gestion de l'offre pour les produits laitiers, mais on a l'impression qu'on a laissé pas mal de choses sur la table.
Écoutez, ce nouvel accord, cette nouvelle entente, je lui donnerais le score peut-être de 8 sur 10. C'est à mon avis, une moins bonne entente pour le Mexique et pour le Canada que la première entente. Je pense qu'il y a eu effectivement une amélioration de la position américaine avec cette deuxième entente. Les Américains ont gagné quelque chose, pas seulement à cause de leur incursion dans le système de la gestion de l'offre, là, les augmentations importantes dans le secteur de tarifs dans le secteur laitier, par exemple. Alors, je pense qu'ils ont fait des progrès. Mais cela dit, il n'en demeure pas moins que ce nouvel accord amène quand même beaucoup de calme, a été généralement bien reçu par l'industrie canadienne. Mais il n'y a pas de doute que cette entente, à mon avis, est meilleure pour les Américains que la première entente n'était pour eux.
OK. Comment vous voyez les discussions actuelles entre la Chine et les États-Unis?
Écoutez, ça, c'est un enjeu beaucoup plus important pour les États-Unis, parce que la Chine, ce n'est pas le Canada. Il ne faut jamais oublier le poids relatif des pays. Et je pense que, bon, l'espèce de délai qui vient d'être accordé par le président Trump ne satisfait personne. Vous avez vu la baisse marquée des marchés hier. Donc, beaucoup d'inquiétudes pour ce qui est de cette guerre commerciale larvée entre la Chine et les États-Unis. À cette guerre commerciale, bien sûr, s'ajoute le conflit plus général du pouvoir entre les deux géants de la planète. La Chine qui est en montée, en une puissance grandissante, les États-Unis qui tout doucement risquent de perdre le poste de première économie du monde. Alors c'est un petit peu tout ça qui joue, mais et là on a vu les effets hier, ça, et je pense que c'est loin d'être réglé et c'est très inquiétant pour nous tous.
Mais quel est justement précisément l'impact pour le Canada? Est-ce que moi, comme Canadien, mon gouvernement peut négocier des accords commerciaux avec la Chine? Est-ce qu'on doit en référer aux États-Unis? Est-ce que je peux faire entrer des produits chinois au Canada puis essayer de les vendre aux Américains? Comment ça me touche directement?
Ben, écoutez, ce qui nous touche directement, puisqu'on parle de la Chine, c'est cette nouvelle clause du deuxième aléna qui force le Canada à exprimer aux Américains et aux Mexicains le désir de faire une entente commerciale avec la Chine. Ça, c'est un élément de la victoire américaine dans cette deuxième entente. Ça s'est passé un petit peu inaperçu, mais ça risque de changer beaucoup la relation entre nous et la Chine. Alors, il faudra voir jusqu'à quel point cette clause est exercée et est imposée au cours des prochaines années. Mais c'est surtout là, je pense, que les relations entre nos deux pays, entre le Canada et la Chine, risquent d'être affectées.
OK, mais là, je veux bien comprendre. Est-ce que ça veut dire que si le Canada veut négocier une entente commerciale avec la Chine, on doit informer les Américains, les Mexicains?
Effectivement.
Est-ce que ça dépasse comme obligation le strict fait d'informer?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut leur leur soumettre le plan de notre entente, disons une entente qui pourrait être sur papier là, avec la Chine. On est loin de là, M. Arcan, parce que je pense qu'avant qu'il y ait un traité de libre-échange entre la Chine et le Canada, nous n'en sommes pas là. Les Chinois ont été très réticents jusqu'à maintenant à accepter plusieurs demandes canadiennes. Mais quand même, cette clause n'existait pas dans la première entente, et c'est un peu une limite à la souveraineté canadienne vis-à-vis la Chine.
En terminant, puisque vous êtes là, c'est aujourd'hui qu'on va célébrer les funérailles de l'ancien président Bush, George Bush père. Comme ancien ambassadeur, évidemment, au cours des années, vous avez eu l'occasion de le rencontrer.
Oui, écoutez, je n'ai pas travaillé avec le président Bush le père, mais je l'ai rencontré socialement à plusieurs occasions. Il m'a toujours frappé comme un homme remarquablement bien informé sur les affaires canadiennes. Il a été crucial pour nous lors de deux grandes ententes, celle sur les puits acides, ensuite pour ce qui est de l'architecture du premier accord, du premier aléna. Un homme qui, parce qu'il vivait notamment à Kennebunkport au Maine, nous connaissait intimement et est devenu peut-être le meilleur ami du Canada. Quand on pense aux différents présidents des États-Unis, c'est George Bush le père qui a été le plus près de nous. C'est aussi un homme remarquablement bien préparé pour son poste. Je pense que les historiens américains vont s'entendre là-dessus. Il a peut-être été le meilleur président américain qui n'a eu qu'un seul terme, si vous voulez. Alors, un homme qui aujourd'hui, bien sûr, ses obsèques auront lieu. M. Maloney doit faire prononcer une partie de l'éloge funéraire. Je pense que c'est bien mérité. Il faut que vous ayez une bonne pensée pour lui aujourd'hui.
Merci, M. Chrétien.
Bonne journée.
Au revoir. Raymond Chrétien, donc négociateur pour le gouvernement du Québec, dossier du bois d'œuvre, de l'aluminium et de l'acier, et ancien ambassadeur du Canada. 7h39.